Bonjour à tous et bienvenue à ce troisième cours dans lequel on va traiter des techniques diagnostiques reposant sur l'utilisation des fibres optiques. Et ce cours, le plan est indiqué ici. Dans un premier temps, je ferai un bref rappel sur les fibres optiques, la configuration, le domaine spectral, les problèmes d'atténuation, de dispersion. Ensuite, je vais introduire les capteurs optiques, montrer leur diversité et bien sûr m'intéresser, me focaliser sur les capteurs optiques à réseau de Bragg. Je mentionnerai les domaines d'application dans le génie civique, dans aussi la médecine et les autres, et m'intéresserai finalement aux batteries. Et enfin, on tentera de voir les informations qu'on peut en déduire de ces différents capteurs, tant au point de vue physique et au point de vue chimique. On commencera à voir ce qu'on peut en sortir. D'où, pour commencer ce cours, revenons à ce qu'est une fibre optique, c'est-à-dire l'objet que vous utilisez tous pour les télécommunications, pour transférer vos quantités de données, ainsi de suite. Mais la fibre optique n'est rien d'autre qu'un guide d'onde constitué du cœur, d'une gaine optique et d'une enveloppe protectrice. Donc voilà directement ce qu'est une fibre optique. Alors, ce qu'il faut savoir, eh bien, c'est un guide d'onde. C'est-à-dire que vous allez envoyer une lumière et cette lumière va se propager dans ce guide d'onde. Et bien sûr, il va y avoir des conditions de façon à faire en sorte que les rayons lumineux puissent converger à l'intérieur de cette fibre optique. Et ces conditions vont être définies par la loi de Snell-Descartes entre deux milieux, qui est N1 sinus θ1 égale N2 sinus θ2. Donc, par conséquent, vous pouvez voir sur cette description qu'il va y avoir un angle d'ouverture. C'est-à-dire qu'il va falloir que les radiations ou la lumière arrivent en dessous d'un certain angle. Et cet angle, eh bien, on peut le définir par la relation indiquée ici, qu'on appelle l'angle d'ouverture, qui est égal à cette formule sinus alpha m, qui est fonction de N1 au carré, N2 au carré, et je dois bien préciser que N1 est toujours supérieur à N2. Et dans ce cas, eh bien, on a ce fameux cône de capture, c'est-à-dire qu'il faudra que tous les rayons lumineux aient un angle d'entrée qui soit inférieur à alpha m, de façon à se propager, je dirais, correctement tout le long de la fibre. Alors ça, c'est le principe de toutes les télécommunications, et il y a bien sûr certaines difficultés que vous allez comprendre rapidement. Ces difficultés, la première, la difficulté qui est une dispersion en temps. Pour la bonne et simple raison que vous pouvez voir ici, lorsque vous avez envoyé un rayon lumineux, vous allez directement à certaines longueurs d'onde ou certains angles qui vont être différents. Ce qui fait que si vous regardez le trajet parcouru par ces rayons lumineux, vous voyez qu'ils vont parcourir des trajets différents et ils vont arriver avec un certain désaccord en temps. Donc si vous envoyez directement un delta T1, eh bien, on s'aperçoit ici que finalement, il va y avoir, selon cet angle, eh bien, des dispersions en temps relativement considérables. Dans ce cas, on est en train de parler de 34 nanosecondes par kilomètre. Et ça, finalement, ce n'est rien d'autre qu'à la qualité finalement, des informations que vous pouvez collecter lorsque vous utilisez ces systèmes de fibre optique. Alors, cette dispersion en temps, eh bien, bien sûr, les scientifiques s'y sont penchés pendant de nombreuses années, depuis 1970, avec, je dirais, différentes solutions. Bon, la première, c'est la fibre multimode, dans laquelle, dans ce cas, vous voyez, vous avez un rayon lumineux qui est relativement large. Regardez les dimensions. Vous avez 200 microns pour le cœur et 380, finalement, pour le total. Ça fait à peu près 180 de gain. Et vous voyez, dans ce cas, effectivement, vous avez ce que vous mentionnez, des dispersions en temps relativement énormes. Vous voyez directement le signal. Et vous avez un delta qui est supérieur à 1%. Alors, de façon pour améliorer cela, eh bien, au point de vue technologique, la solution a été de faire des fibres qu'on appelle des fibres monomodes. Maintenant, je vais réduire considérablement le cœur de la fibre, vous voyez. Et dans ce cas, finalement, je vais avoir seulement des rayons lumineux qui vont pouvoir se propager sans avoir, je dirais, cette dispersion en temps. Et ensuite, pour pouvoir transporter plus d'informations, eh bien, l'astuce a constitué à construire des fibres optiques à gradient d'indice. Alors, gradient d'indice, c'est relativement simple. Regardez, vous avez un rayon qui va parcourir une plus grande distance, eh bien, va mettre plus de temps. D'où, par conséquent, dans ce cas, on va tout simplement changer l'indice de réfraction en allant du centre de la fibre à l'extérieur. Ce qui fait qu'un rayon qui va se propager directement au cœur, il y aura un indice de réfraction qui sera élevé, d'où il mettra plus de temps, et on peut l'équilibrer avec un qui se propage je dirais, en surface. Et par contre, par cet effet de moyenne, eh bien, on arrive à avoir dans ce cas des dispersions en temps inférieures à 1%. Alors, ces fibres optiques, bien sûr, comme vous pouvez voir ici, ce qui est très important, c'est l'indice de réfraction. Il nous faut de plus qu'il doit être supérieur pour le cœur que pour la gaine. Alors, comment on va régler cet indice de réfraction? Eh bien, tout ça, c'est, je dirais, la chimie des matériaux, où on va, comme vous pouvez voir ici, eh bien, utiliser ce qu'on appelle les dopants. Et ces dopants vont nous permettre soit d'augmenter l'indice de réfraction avec zircon, le titane, ou alors de l'abaisser, comme dans le cas des B2O3 ou du fluor, ainsi de suite. Donc c'est comme ça qu'on va ajuster ces indices de réfraction et les changements ne sont pas drastiques, vous pouvez voir. Hein. On passe de 1,46 à 1,49 ou 1,44. Donc voilà, si vous voulez, une des premières difficultés. La deuxième difficulté associée, je dirais, à ces fibres optiques est indiquée ici. C'est tout simplement le problème d'atténuation. Atténuation, pourquoi? Eh bien, on va tout simplement, dans ce cas, avoir des longueurs d'onde qui vont, bien sûr, être transitées, et la complexité provient de ce domaine spectral indiqué ici. Et vous voyez que dans ce cas, pour avoir une faible atténuation, si je prends des fibres optiques de silice, eh bien, je suis obligé de travailler dans ce domaine, je dirais, du visible et du proche infrarouge. Avec des difficultés, puisque vous voyez que dans ce cas, eh bien, on va avoir, si maintenant j'ai mes extrémités, je vais avoir des pertes infrarouges au fur et à mesure que je vais arriver vers des valeurs de 1,4 micron, et si je vais de l'autre côté, je vais avoir des pertes UV. Ensuite, eh bien, va s'ajouter à cela eh bien, la diffusion Rayleigh, qui va indiquer, je dirais, ce background ici. Et dans ce cas, vous voyez, on a une diffusion qui est de l'ordre de lambda à la puissance de moins 4. Et tout cela, c'est des vibrations locales associées aux inhomogénéités de votre fibre optique ou à des inhomogénéités au niveau des compositions qui va, là aussi, être responsable pour cette diffusion Rayleigh dont on parlera par la suite. Et enfin, il y a quand même aussi des bandes associées à des bandes OH qui, comme vous pouvez voir ici, arrive à 1,3 micron. C'est la raison pour laquelle, à ce jour, eh bien, on va tout simplement utiliser trois domaines, trois fenêtres de cette bande spectrale, qui est la première fenêtre, entre 800 et 900, dans ce cas, nanomètres, entre 1200 et 1300, et entre 1500 et 1600. Et ça, bien sûr, ça va dépendre des applications. Si vous voulez, les câbles sous-marins pour de très grandes distances, eh bien, on va utiliser, dans ce cas, la troisième fenêtre, à 1,4-1,5 microns. D'où voilà la difficulté qu'il y a au niveau de ces problèmes d'atténuation. Alors, on peut encore avoir de meilleurs résultats, et cela eh bien, s'obtient en changeant la chimie de ces fibres optiques, c'est-à-dire en passant de la silice au verre fluoré, où dans ce cas, eh bien, on repousse davantage l'absorption multiphénon associée à la liaison métal fluor. Et ça, eh bien, c'est tout simplement les verres fluorés, qu'on appelle les verres Z-blend, puisqu'ils sont constitués des différents éléments mentionnés ici, tétrafluoride de zirconium, difluoride de barium, tétrafluoride de lanthane, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se passe au niveau de ces fibres optiques. Et là, vous voyez aussi que ce domaine spectral va dépendre de la composition chimique des matériaux mis en question. Alors, on peut bien sûr varier et modifier ce domaine spectral en jouant encore plus sur la chimie. Et vous avez ici, je dirais, toute la panoplie de fibres optiques que l'on peut fabriquer à ce jour, avec bien sûr les fibres optiques de silice qui sont bien les plus répandues, fluorure, et vous voyez qu'on va au sulfure, sélénure et tellurure. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on va augmenter considérablement le domaine spectral. Et tout cela, pour la bonne et simple raison, c'est que ce domaine spectral est lié à ces résonances vibrationnelles qui vont dépendre de la masse atomique des atomes considérés, c'est-à-dire l'oxygène, le silicium, le soufre, ainsi de suite, et également de la force liaison, force covalente ou ionique, ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, c'est ce qui se passe. Et ça, je dirais, c'est très important quand on va faire tout simplement du diagnostic. Parce que si on veut faire du diagnostic avec différents réseaux qu'on verra par la suite, eh bien, on pourra travailler avec des fibres de silice. Si on veut tout simplement faire du diagnostic à l'infrarouge, eh bien, on sera obligé de partir vers des fibres de sélénure, tellurure, et ainsi de suite. Et on verra cela par la suite. Tout ça, c'est le sorte de fibres qu'on a, qui sont des fibres inorganiques, mais il y a également toute une autre catégorie de fibres qu'on appelle les fibres optiques polymères. Et ces fibres optiques polymères, eh bien, comme vous pouvez voir ici, elles proviennent tout simplement de la copolymérisation de ce métacrylate méthyle indiqué ici, et qui va donner tout simplement cette matrice à l'intérieur duquel on va pouvoir doper, et en dopant par des sulfures ou des disulfures de diphényl, on va pouvoir dans ce cas changer l'indice de réfraction. Et ici, vous avez la section transversale d'une fibre que l'on peut tirer de la même façon que les fibres inorganiques, dans laquelle vous voyez dans ce cas le cœur, où vous avez une indice de réfraction plus élevé que dans la gaine, et dans ce cas, vous avez aux alentours de 8 microns par rapport à 70 microns. D'où là aussi, on peut faire des fibres optiques qui sont des fibres optiques en polymère. Alors, il y a des avantages et des inconvénients à utiliser ce genre de fibres. Parmi les avantages, eh bien, elles sont peu chères et faciles à produire. Il y a un faible modèle de Young, et surtout, très important, c'est qu'elles sont biocompatibles. Et vous allez voir, ces genres de fibres optiques vont être utilisées fortement en médecine. Les désavantages, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas de fibres optiques polymères à saut d'indice. C'est encore, des fabrications artisanales. L'inconvénient majeur et énorme, c'est que dans ce cas, eh bien, il y a une perte qui est relativement gigantesque, c'est-à-dire 100 décibels par mètre, ce qui fait qu'en ce cas, vous n'allez pas pouvoir faire directement des mesures à distance. Il faudra tout simplement faire des mesures à quelques mètres, sensible à l'humidité, bon, faible résistance thermique et une difficulté à coupler avec la lumière. D'où voilà, si vous voulez, la sorte de fibre optique que l'on va utiliser ou dont on parlera dans ce cours. Alors ces fibres optiques, comme vous le savez tous, eh bien, ça a entraîné depuis les années 1960 la révolution au niveau tout simplement de la communication. C'est-à-dire que tout acteur actuel, eh bien, tous les systèmes Internet, toute la quantité de données transite par ces fibres optiques. Et grâce à ce nouveau secteur, eh bien, il y a eu, des domaines qui sont fortement développés, c'est-à-dire le domaine de l'optoélectronique, où beaucoup de dispositifs ont été conçus, couplant, les merveilles de l'optique et les merveilles de l'électronique. Et également, il y a tout autre domaine qui s'est développé, et celui qu'on va voir, c'est celui tout simplement des capteurs optiques. Alors ce qui est intéressant, c'est ces capteurs optiques, finalement, ils se sont développés en tirant parti des inconvénients de la fibre optique. Ces inconvénients sont que, tout simplement, l'indice de réfraction bien, va varier avec la température, il va varier directement avec la contrainte, va varier avec la pression, voire avec la longueur d'onde. Donc finalement, ces effets nuisibles pour la fibre optique ont été tirés à partie pour développer des capteurs. Et c'est ces genres de capteurs qu'on va regarder aujourd'hui. Alors parmi ces capteurs, comme vous disiez, il y a eu, dans ce cas, des domaines d'application très variés en science, dans l'engineering et dans la médecine, comme on va regarder. Alors les avantages, eh bien ça aussi c'est important, c'est une fibre optique, un verre, dans laquelle il y a une immunité totale aux interférences électromagnétiques, c'est-à-dire que lorsque vous voulez mesurer une température, eh bien si vous mettez une fibre optique, vous n'avez pas les problèmes que vous allez avoir avec un thermocouple. Il y a également isolant électrique, et ça c'est un avantage énorme lorsqu'on va faire des recherches sur les batteries, puisqu'en ce cas, dans ce compte-là, il n'y a pas aucun risque de co-circuit. Il y a une faible atténuation, ça veut dire que dans ce cas, on va pouvoir faire des contrôles à distance, c'est-à-dire qu'on peut mettre un capteur et être à 10 ou 15 km et contrôler finalement la température. Petite taille, bonne stabilité au temps et bonne résistance à la corrosion. Par contre, comme vous savez tous, il y a les fibres optiques qui sont relativement fragiles et au niveau de la connectique, il faut quand même reconnaître que c'est quand même plus compliqué qu'un simple fil électrique. Il y a une connectique qui est un peu plus complexe. D'où voilà, si vous voulez, ce que vont être ces capteurs optiques. Alors maintenant, si on rentre dans le domaine des capteurs optiques, eh bien là, on va pouvoir également faire des classifications. Et ces classifications, eh bien, elles vont être illustrées ici. On a ce qu'on appelle les capteurs optiques continuellement distribués, c'est-à-dire qu'en ce cas, ils reposent sur différentes interactions entre la lumière et la fibre optique. C'est-à-dire que la fibre optique, sur une longueur déterminée, peut servir de capteur optique. Et Ces différentes sortes d'interactions entre la lumière et la fibre optique sont de plusieurs ordres. On est en train ici de parler de la diffusion Rayleigh. Cette diffusion Rayleigh, dont je l'ai mentionné, avait des inhomogénéités au niveau des matériaux. Et cette diffusion, eh bien, elle va tout simplement, son intensité va être dépendante des déformations, voire de la température, comme vous pouvez le voir ici. Il y a également des diffusions de type Brillouin, qui dans ce cas sont rien d'autre qu'une interaction entre la lumière incidente et un phonon acoustique de la matière dans laquelle se propage, c'est-à-dire phonon acoustique, tout simplement vibration de l'atome et de ses atomes environnants. Et il y a également, dans ce cas, la diffusion Brillouin, eh bien, elle va tout simplement être fonction de la température et de la contrainte ou de la déformation. Et enfin, il y a la diffusion Raman, qui dans ce cas provient d'une interaction entre la lumière et une onde est un phonon optique du réseau. C'est-à-dire dans un réseau de chlorure sodium, par exemple, vous avez tout simplement un dipôle qui va se construire entre deux atomes qui va tout simplement vibrer. Donc voilà, si vous voulez, ces genres de détection qu'on peut faire. Et dans ce cas, je répète, c'est continuellement distribué. Ensuite, il y a toute une autre classe de capteurs optiques dans lesquels on va dire qu'ils sont partiellement distribués. Partiellement distribués, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, ce n'est seulement qu'une partie de la fibre optique qui va tout simplement servir de capteur. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui, ou dans notre cours, ce sont les réseaux de Bragg que je mentionne ici. Ayant fait cette classification, on peut continuer et faire un autre type de classification, c'est-à-dire comment le signal va être détecté. Et on va maintenant parler de capteurs optiques intrinsèques dans lequel la fibre optique va servir de guide d'onde, mais également de capteur. Et dans cette classe, eh bien, il va y avoir les réseaux de Bragg, mais il y a les capteurs distribués, je vous ai mentionné auparavant, c'est-à-dire l'effet Rayleigh dû aux inhomogénéités, ou alors l'effet Brillouin dû tout simplement à l'interaction entre la lumière incidente et cette onde acoustique provenant du réseau. Donc voilà ce que sont ces capteurs intrinsèques. Alors ça veut dire qu'en ce cas, c'est la fibre optique elle-même qui va jouer le rôle de guide d'onde, mais également de capteur. Ensuite, eh bien, il y a automatiquement les capteurs optiques extrinsèques. Et dans ce cas, c'est la fibre optique va servir de guide d'onde, mais on va tout simplement maintenant aller, je dirais, tester l'environnement de cette fibre optique. Et on va avoir dans ce cas des capteurs évanescents. Vous voyez ici l'onde évanescente qui va aller prospecter sur quelques nanomètres ce qui se passe dans l'environnement. Et ça va être très utile pour regarder à la chimie aux interfaces. Et il y a également les plasmons de surface dans lesquels, là, en ce cas, on va tout simplement déposer une couche d'or. Et là aussi, qui va générer, je dirais, une onde résonante de surface qui va prospecter tout ce qui se passe au niveau du liquide environnant. Et ces aspects seront beaucoup utilisés dans tout ce qui est la biochimie ou la biomédecine. Donc voilà, si vous voulez, résumer rapidement ces différents capteurs optiques en ayant défini tout simplement leur fonctionnement et ensuite, maintenant, leurs différentes classes, soit de façon intrinsèque ou extrinsèque. D'où on va maintenant rentrer sur ces capteurs à réseau de Bragg. Alors, ces capteurs à réseau de Bragg, comme indiqué ici, ce n'est rien d'autre que des fibres optiques sur une certaine portion, eh bien, on va tout simplement avoir une périodicité de l'indice de réfraction, comme indiqué par ces différents disques ici. Alors, comment cela se fait ? Eh bien, on va tout simplement prendre une fibre optique qui est dopée au germanium et on va la soumettre à une atmosphère d'hydrogène. Pour la bonne et simple raison, c'est que cette atmosphère d'hydrogène va faciliter la migration du germanium. Et ensuite, on va utiliser, si je peux dire, un système de lithographie dans lequel on va utiliser un masque et on va tout simplement irradier avec un laser excimère UV à la longueur d'onde indiquée ici pour finalement écrire sur la fibre optique qu'on déplace. Oui. Et dans ce cas, eh bien, on va voir les conditions de réfraction qui sont indiquées par cette formule. La longueur d'onde du réseau de Bragg eh bien, va être proportionnelle à, bien sûr, l'indice de réfraction et à ce capital lambda qui représente le pas du réseau que vous venez tout simplement d'inscrire. Donc voilà, si vous voulez, comment sont fabriqués ces réseaux de Bragg de façon relativement générale. Alors ces réseaux de Bragg, eh bien, on va les utiliser car ils ont une propriété bien particulière. C'est un peu, si vous regardez comme la cristallographie, cette relation est de sinus θ, si je peux dire, il va y avoir diffraction. Dans ce cas, vous allez tout simplement avoir le spectre réfléchi. Et ce spectre réfléchi, eh bien, il va être réfléchi à la longueur d'onde lambda b qui est simplement définie par ce réseau de Bragg, c'est-à-dire par son indice de réfraction et par le pas du réseau. Okay. Et l'avantage, eh bien, c'est que ce lambda b va être fonction de la température, comme indiqué ici, selon la relation mentionnée, également de l'indice de réfraction, comme mentionné ici. Mais il va être également fonction des contraintes qu'il va y avoir le long de la fibre. Et vous voyez ici que si tout simplement je contracte la fibre, je vais changer tout simplement mon pas. De la même façon, lorsque je vais l'allonger, je vais changer mon pas. Et tout cela, eh bien, va être mesuré. Ça veut dire qu'à partir de ce lambda b, de cette longueur d'onde, on va pouvoir avoir des informations sur la température, les contraintes et la pression. La difficulté, eh bien, vous voyez que dans ce compte-là, j'ai trois paramètres qui vont influencer ce lambda b. D'où, je veux dire, toute la règle du jeu, toute l'importance va être de savoir comment on va pouvoir différencier ou découpler ces différents paramètres. Alors pour ce faire, il va y avoir des astuces. On va pouvoir jouer tout simplement sur la morphologie de la fibre. Et dans ce cas, vous voyez tout simplement une fibre monomode qui, maintenant, on peut avoir des fibres optiques microstructurées, c'est-à-dire qu'en ce cas, on peut avoir des inclusions, des trous à l'intérieur de la fibre. Et ce qui va être important, c'est le taux de remplissage anaire de cette fibre. Et vous voyez que si ce taux de remplissage augmente, eh bien, j'ai tout simplement une sensibilité qui est beaucoup plus grande. Et c'est la raison pour laquelle, en changeant d'une fibre classique monomode, on peut aller à ces fibres microstructurées et multiplier par 8, dans ce cas, le facteur de contrainte associé à ces fibres. Et à partir de cela, eh bien, on peut déterminer, avec ces deux équations, découpler la température et la pression. Alors, pour déterminer cette température et pression, ce qui est important dans ces capteurs, chaque capteur va avoir sa constante, si je peux dire, de température, de contrainte et de pression. Et à chaque mesure, il faudra connaître, ou pour chaque capteur, plus ou moins, il va y avoir un étalonnage qui va consister à mesurer quelles sont ces constantes. Et par exemple, vous pouvez voir ici, dans le cas de la température, eh bien, on a une constante de 10,18 picomètres par degré. Si maintenant je regarde au niveau de la contrainte, la constante de contrainte qu'on peut mesurer en utilisant ces jauges de contrainte indiquées ici, sur lesquelles on va aller fixer la fibre optique, eh bien, dans ce cas, on a une constante de contrainte de 0,839. Et on peut également mesurer ces constantes en termes de pression. Et vous voyez que dans le cas d'une fibre normale, monomode, eh bien, cette constante pour la pression relativement faible est négative. Donc voilà, si vous voulez, des paramètres qu'il faudra que vous établissiez lorsque vous allez vouloir utiliser ces réseaux de Bragg. Alors, un autre avantage de ces réseaux de Bragg, eh bien, c'est ce qui est très bien connu dans le domaine de l'optique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre maintenant plusieurs réseaux de Bragg sur la même fibre optique, chacun ayant sa longueur d'onde propre, puisque c'est nous qui allons directement déterminer cette longueur d'onde, car lors de la fabrication, eh bien, on a ce qu'on appelle et qui est connu en optique, qui est le problème du multiplexing. On va pouvoir, dans ce cas, avec une source lumière, adresser 4, 5, 6 réseaux de Bragg. Et on peut en adresser bien plus si on prend une lumière, une source lumineuse très large, où on peut injecter la lumière et avoir, je dirais, contrôler sur la même fibre optique 40 à 60 réseaux de Bragg. Et ça, bien sûr, ça va présenter des avantages au niveau de l'imagerie thermale et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce que sont ces réseaux de Bragg. Alors ces réseaux de Bragg, ils sont peut-être nouveaux dans le domaine des batteries, mais ils ont été utilisés pendant des années dans d'autres domaines. Et je vais vous donner un exemple, les domaines dans lesquels ces réseaux de Bragg ont été utilisés. Tout d'abord, dans le domaine du génie 6000. Ici, vous voyez tout simplement un réseau de Bragg de 48 MBG qui sont utilisés pour, finalement, tester comme capteur de déformation les sollicitations dynamiques d'un pont, du tablier, voire des câbles, voire des piliers du pont, et on peut suivre, finalement, l'intégrité ou le vieillissement de ces architectures en fonction du temps. Il en est de même dans le domaine de l'aéronavale, où dans ce cas, on peut voir, ils sont utilisés sur la fondation des éoliennes offshore, et pour suivre la déformation des coques de bateaux. Également dans l'aviation, pour savoir la sollicitation au niveau des ailes, au niveau de la coque, et également des problèmes de corrosion dans ces systèmes. Et enfin, au niveau des chemins de fer, et là, vous avez tout ça. Là, généralement, les utilisations, on peut compter le nombre de passagers, mais là, on peut les utiliser également quand on met dans les axes des roues pour savoir si la roue est vrillée ou si la vibration et savoir quand est-ce qu'on doit changer les roues dans ces différents wagons, ainsi de suite. Donc, comme vous pouvez voir, c'est utilisé fortement dans tout ce qui est le génie civil et ainsi de suite pour réellement connaître l'intégrité ou le vieillissement des structures. Un autre domaine dans lequel les réseaux de Bragg sont apparus et sont très utiles et plus performants que la détection de capteurs acoustiques, dont on verra par la suite, c'est le domaine des composites. Et dans le domaine des composites, par exemple, vous avez ici des tissus avec des composites qui sont tissés, enchevêtrés dans différentes directions, et on peut, à partir des réseaux de Bragg, eh bien, obtenir les tensions à l'intérieur ou comment ces tensions se développent lorsque vous allez, dans ce cas, exposer ou mettre une pression. Et ici, vous avez les profils spectraux des différents capteurs en fonction de la pression qui vous indiquent finalement les valeurs latérales ou horizontales de pression. Un autre exemple peut être plus d'actualité dans lequel les réseaux de Bragg sont aussi fortement utilisés, c'est dans la fabrication de réservoirs pour le stockage de l'hydrogène. Dans ce cas, vous utilisez tout simplement des composites. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la fabrication, eh bien, ces réseaux de Bragg sont introduits, toutes ces fibres, lors de la fabrication de votre réservoir. Et dans ce cas, vous avez un réservoir qui contient 48 FBG. Et vous avez en dessous l'image dans laquelle vous avez un pendule, à l'extrémité de laquelle il y a un poids, et on va tout simplement lancer le pendule contre le réservoir, et on voit tout simplement en dessous quel va être l'impact au niveau des réseaux de Bragg. Et cela vous montre réellement quelle peut être la possibilité, je dirais la force, de ces systèmes de diagnostic pour avoir des imageries de contraintes dans les composites, et surtout, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va mettre ces composites sous pression lors d'un vieillissement sous hydrogène, et ainsi de suite. Ensuite, un autre domaine dans lequel les fibres optiques et ces réseaux de Bragg sont utilisés, mais cette fois avec des fibres optiques polymères, comme je vous l'ai mentionné dans le domaine de la médecine, où là, eh bien, vous pouvez tout simplement prendre tout simplement votre tension artérielle en connectant l'artère brachiale. Vous pouvez également mettre les capteurs de Bragg sur votre poitrine, et dans ce cas, on va pouvoir arriver à distinguer tout simplement votre respiration, fréquence de respiration, ainsi que le battement du cœur. On peut également les utiliser dans le domaine du sport, si je peux dire, pour tout simplement déterminer la pression plantaire lors de la marche, c'est-à-dire contrôler le centre de masse. Et dans ce cas, ce que l'on fait, c'est qu'on va tout simplement installer des capteurs de Bragg sous la semelle, répartis sous cette semelle, et ensuite on va avoir toutes les informations qu'on va pouvoir utiliser et finalement reconstruire le centre de masse et la posture grâce à toutes ces informations. Donc voilà, si vous voulez, tout ce qu'on peut faire et bien d'autres encore où ces capteurs de Bragg sont utilisés, ou ces capteurs de déformation. D'où pour résumer, bien vous voyez que ces capteurs sont utilisés dans le domaine du génie civil, des composites, du transport, l'aéronaval, l'aéronautique, ferroviaire, pétrolier et autres. Et autres, eh bien ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'en est-il dans le domaine des batteries ? Et que s'est-il passé sur ces capteurs de Bragg ? Et là, je vais maintenant vous mentionner les différentes recherches qui se sont effectuées dans ce domaine. La première remonte en 2013, lorsque des chercheurs, comme ici indiqué, ont placé une fibre optique avec des réseaux de Bragg à la surface de trois pile-boutons du côté de l'anode et du côté de la cathode. Et ces piles à boutons étant connectées à un système de cyclage. Et là, on va suivre, ou ils ont suivi par un interrogateur, le déplacement de la longueur d'onde au fur et à mesure du cyclage de la batterie, de sa charge et de sa décharge. Et vous voyez ici, dans le matériau qui est un lamellaire, communiqué ici, eh bien, lorsque je vais dire de la début de la charge à la fin de la charge, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, j'ai une augmentation de température de 1,7 degré C et lorsque je vais charger à 30 mA. De la même façon, à l'anode, eh bien, je trouve que j'ai là aussi un déplacement lors de la décharge, comme indiqué ici. Et enfin, ici, vous avez un test où on va simplement court-circuiter la positive et la négative, ce qui fait qu'en ce cas, il va y avoir une quantité de courant nettement supérieure. Et vous pouvez voir qu'on peut, dans ce cas, augmenter bien la température de 3,6 degrés C. Et enfin, l'expérience qui a été conduite par ces différents auteurs a consisté à utiliser maintenant une cellule plus large, une cellule de 400 mAh, comme indiqué ici, et la mettre sous court-circuit. Et là, eh bien, une variation de température de 56 degrés a pu être obtenue. Mais ce qu'il y a d'important ici, vous voyez que bon, dans ce cas, grosso modo, on a mis tout simplement des capteurs à la surface, on aurait pu faire la même chose en mettant tout simplement des thermocouples et on aurait obtenu les mêmes résultats. D'où là aussi, vous allez voir que lorsque je vais dérouler ces différents exemples, vous apercevrez que souvent, les mesures qui ont été effectuées pouvaient être effectuées par des technologies de diagnostic parallèles. Le deuxième exemple, et je vais progresser, a consisté maintenant à utiliser une cellule prismatique dans laquelle, dans ce cas, la fibre optique a été mise en diagonale depuis la borne positive jusqu'à l'opposé, comme indiqué ici. Et là, bien les chercheurs ont tout simplement, une fois de plus, envoyé du courant, chargé l'accumulateur et déterminé ce qui se passait en fonction du taux de charge et également en fonction du régime de charge. Et les informations indiquées ici ne sont pas du tout révolutionnaires. Ils s'aperçoivent tout simplement qu'en chargeant à 1,3 C, en doublant, eh bien, ils vont augmenter le delta T, ce qui est entièrement normal, puisque dans ce cas, eh bien, il y a des courants beaucoup plus importants. Et ils notent également une augmentation légère de la température supérieure dans le capteur du haut que dans le capteur du bas, indiquant qu'il y a une production de chaleur plus importante auprès des bornes positives et négatives de l'accumulateur. Donc voilà, si vous voulez, les genres de recherches au départ qui sont faites, et qui servaient à mesurer rien d'autre la température. Ensuite, ça c'est un peu plus, je dirais, compliqué ou plus diversifié, où là maintenant vous avez une cellule poche dans laquelle les chercheurs sont allés mettre deux fibres optiques. Une fibre optique libre, celle qui va être utilisée pour mesurer la température, et ensuite pour mesurer les contraintes, automatiquement pour mesurer les contraintes, vous êtes obligé de fixer votre fibre, ce qui est indiqué ici, à un scotch adhésif pour tout simplement fixer cette fibre. Et bien sûr, si maintenant il y a une contrainte, alors quand je vous dis contrainte ici, ça veut dire tout simplement c'est que le volume de la poche va augmenter et va générer une contrainte sur le capteur. Et là, eh bien, ensuite, ce qu'ils ont fait pour démontrer la validité de ces capteurs optiques, ils ont mis une jauge de contrainte électrique pour déterminer la pression et une thermistance pour déterminer la température. Et ce qu'on voit indiqué ici, eh bien voilà les résultats obtenus à partir des fibres optiques, où on voit la fibre optique libre qui va me donner la variation de température lors de la charge, avec en noir la fibre optique qui a été fixée, qui va me donner les contraintes. Et ensuite, on peut tout simplement en déduire, là, comme indiqué en bleu, quelle va être la contribution, dans ce cas, de la contrainte lors de la charge et la décharge. Alors, les résultats, eh bien, ils ont confirmé ce qu'on pouvait espérer, c'est-à-dire qu'effectivement, les capteurs de température à base de réseau de Bragg et les thermistances eh bien, vous donnent exactement le même résultat, donc ça valide l'utilisation de ces capteurs optiques. Et si je regarde maintenant au niveau de la jauge de pression, eh bien vous avez dans ce cas également, à une légère amplitude de différence, les mêmes résultats au niveau de la jauge de pression et des capteurs optiques, une fois de plus, démontrant la validité de ce type de diagnostic. Alors, ayant cela, eh bien on peut pousser plus loin Et on peut maintenant regarder ce qui va se passer lorsqu'on va essayer de corréler ce déplacement de la longueur d'onde en fonction du taux de charge de la batterie. Vous avez ici une évolution. Vous voyez que cette courbe n'est pas directement relativement continue. Et on a des anomalies dont on peut prendre la dérivée. On peut prendre la dérivée des lambda sur l'état de charge. Et dans ce cas, on obtient certains pics qui vont correspondre à des contraintes, mais contraintes indirectement, ce n'est rien d'autre que des changements de volume, car c'est des changements de volume qui vont faire en sorte que la poche va tout simplement prendre en volume et générer des contraintes. Et effectivement, cela peut être relié tout simplement au matériau d'électrode, puisque si maintenant on prend la dérivée que vous connaissez tous, qui est dx sur dv, et on le met, compare avec d lambda sur dsec, et on s'aperçoit finalement qu'on a les mêmes anomalies, les mêmes pics. Ça veut dire tout simplement qu'on peut effectivement détecter dans ce système, qui est un système lithium métal 4 mélangé à NMC et graphite, eh bien on peut détecter quels sont les changements de phase dans ce matériau. Et là aussi, vous voyez, pour le moment, on est toujours en train de mettre des capteurs optiques en surface des batteries, que ce soit des piles boutons ou des poches-celles. En progressant, les mêmes chercheurs ont ensuite refait les manips, je dirais, à peu près identiques, dans lequel, dans ce cas où il y a maintenant, la fibre optique va être insérée, injectée entre l'anode et le séparateur dans une batterie comme indiqué ici. Et dans ce cas, eh bien, de nouveau, les mesures ont été effectuées avec un capteur de surface pour la température et ce capteur indiqué ici. Et vous voyez que dans ce cas, on a une meilleure lecture des contraintes à l'intérieur du système. Et effectivement, si on compare cette manip à celle que vous mentionnez auparavant, eh bien vous avez qu'en ce cas, eh bien on augmente énormément la sensibilité pour la bonne et simple raison que là maintenant, on est directement en contact avec les électrodes et on mesure directement les contraintes qui ont lieu à l'intérieur du système. Donc voilà, si vous voulez, les sortes de manips qui ont été faites. Ensuite, la manip ou l'expérience qui est certainement la plus concluante et la plus intéressante est une expérience qui a été faite il y a de cela 3 ou 4 ans sur, tout simplement, l'étude des électrodes de carbone. Et dans ce cas, eh bien, les chercheurs ont pris la fibre optique, le réseau de Bragg indiqué ici, qu'ils ont mis soit en surface de l'anode de graphite ou alors inséré dans l'anode de graphite. Vous voyez ici la représentation de la fibre optique, dans ce cas en surface, dans ce cas inséré, avec les potentiels ou la variation de la tension en fonction du temps du cyclage. Et lorsqu'on regarde maintenant le signal du réseau de Bragg, on s'aperçoit que ce signal, dans le cas du système où la fibre optique est seulement accrochée, eh bien on a un léger déplacement de ce réseau de Bragg. Alors que dans le cas où la film est insérée, eh bien on a dans ce cas un développement du signal qu'on va voir par la suite. Et à partir de ces déplacements de longueur d'onde, eh bien on peut remonter finalement au taux de déformation, au taux de contrainte qui a lieu dans ce matériau, et on peut le faire par la solution mathématique indiquée ici, dans laquelle les différents termes, ou la signification des différents termes est représentée, dans laquelle epsilon représente la déformation, et à partir de ces différents termes, on peut utiliser la relation, la loi de Hooke, qui est tout simplement la contrainte ou la sigma qui est égale à E epsilon, dans laquelle E est le module de Hooke, et on peut tout simplement avoir quelle va être la contrainte au niveau de cet électrode. Vous voyez ici qu'on peut mesurer la contrainte en fonction de la charge et de la décharge. Et cela, dans la fibre qui est insérée dans la matrice, ou dans la fibre qui est à surface. Vous voyez qu'il y a des différences considérables. Et ces différences considérables, on peut les expliquer de façon relativement simple en regardant tout simplement quelles sont les forces qui vont s'exercer dans une électrode de graphite lorsque vous allez mettre du lithium. Si vous mettez du lithium, cette électrode de graphite, et si vous avez votre fibre qui est au-dessus de l'électrode, mais dans ce cas, vous allez avoir tout simplement qu'une composante, je peux dire, axiale. Si maintenant, vous avez la fibre insérée, eh bien, lorsque vous allez avoir une expansion volumique, vous allez créer tout simplement des tensions perpendiculaires et axiales. ce qui fait qu'on arrive à décomposer les caractéristiques d'une électrode et on pourrait connaître ce qui se passe à certains composés lamellaires lorsque on va cycler selon les taux de charge, et ainsi de suite. Donc voilà, si vous voulez, ce phénomène important qui est spécifique à ces réseaux de Bragg, et dans ce cas, c'est ce qu'on appelle le domaine à biréfringence. Alors pourquoi ? Eh bien, vous avez ici la fibre optique non perturbée, dans laquelle, vous voyez qu'en ce cas, l'indice de réfraction, si je peux dire, est équivalent sur l'axe des X, sur l'axe Y. Et si maintenant, eh bien, je vais appliquer une tension, comme on peut voir ici, eh bien, je vais créer une biréfringence. Ça veut dire que j'aurai N ne sera plus le N effectif que j'ai ici, mais j'aurai une composante X, une composante Y, et à partir de cette composante, eh bien, je vais pouvoir calculer, et c'est ce qui a été fait de façon théorique, quels vont être les déplacements associés à ces constantes X, ou ces indices de réfraction X et Y, et remonter à la variation de ce déplacement en fonction de la force appliquée. Et ça, on peut le, tout simplement, ça c'est des calculs théoriques, mais on peut le visualiser par l'expérience. Et vous avez une expérience qui est relativement simple ici, dans laquelle, vous voyez, j'ai tout simplement un seul signal donné par ce réseau de Bragg, et au fur et à mesure que je vais augmenter la pression, eh bien, on aperçoit ce dédoublement. Et ça, de nouveau, c'est très utile, comme je vous l'ai mentionné auparavant, lorsqu'on regarde des composites et qu'on sait comment elles vont se déformer, mais également dans les matériaux d'électrode, avoir ces informations peut être très intéressante du point de vue structuration d'électrodes et ainsi de suite. Donc voilà ce qui s'est fait. Alors ensuite, eh bien, les chercheurs ont essayé d'utiliser encore le multiplexing dans de ces longueurs d'onde pour ces fameux réseaux de Bragg. Et ici, vous avez une expérience dans laquelle maintenant, vous avez trois accumulateurs ou un paquet d'accumulateurs constitué de trois accumulateurs qui sont 1, 2 et 3. Et ce qu'ont fait les chercheurs dans ce cas, ils ont mis tout simplement des fibres optiques avec 9 réseaux de Bragg en surface, à l'intérieur, entre la cellule 1 et 2 et à l'extérieur. Et là, eh bien, ils ont tout simplement envoyé du courant et essayé de comprendre, de voir ce qui s'est passé au niveau de la variation de température. Ils ont pu obtenir ces images, ces belles images, durant la décharge de l'accumulateur à différents régimes. D'où, finalement, dans ce cas, ils sont en train de faire une imagerie thermique de la batterie en fonction du courant et également voir quels sont les domaines de la batterie qui vont s'échauffer le plus ou moins rapidement. Et vous voyez que, d'abord, la location, à la surface, eh bien, on n'a pas tellement d'effet thermique. Par contre, si on se place entre la batterie numéro 1 et la batterie numéro 2, c'est-à-dire ces deux domaines ici, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on s'aperçoit qu'il y a, dans ce cas, une élévation de température conséquente au niveau des collecteurs de courant. Et de plus, on peut avoir également une variation dans cette direction XY entre les capteurs 1, 2 et 3. Donc tout cela montre effectivement qu'en utilisant ce multiplexing, on peut faire de l'imagerie une imagerie en température de la batterie. Donc voilà, si vous voulez, la possibilité que l'on a de réaliser la cartographie thermique, spatiale et temporelle des batteries. Ensuite, un problème qui est relativement complexe, donc je vous ai mentionné au départ, c'est que lorsqu'on a de tels capteurs, dans ce cas par exemple, eh bien, il n'y a eu aucun souci de découpler la température avec les contraintes. Mais si on veut faire des analyses fines, et lorsqu'on voudra mettre les capteurs à l'intérieur des électrodes, on doit être capable de faire cela. Et ça, c'est un travail récent que je vais mentionner maintenant, qui est un travail qui a été effectué par un groupe portugais, dans lequel ils ont utilisé ce qu'ils appellent un capteur hybride, c'est-à-dire un capteur qui va coupler un réseau de Bragg avec une cavité Fabry-Perot, c'est-à-dire un capteur Fabry-Perot. Et dans ce cas, bien ce capteur, il constitue tout simplement d'une bulle d'air microscopique qui est obtenue par, en fondant à la fusion, deux fibres optiques single mode et en contrôlant relativement la distance. Et l'avantage de ce capteur, c'est qu'il est peu sensible à la température et par contre beaucoup plus sensible à la contrainte. D'où, comme je l'ai mentionné auparavant, lorsque j'avais découplé la température et la pression, avec le même système d'équations, comme indiqué ici, ils peuvent découpler, dans ce cas, la contrainte et la température. Et en faisant cela, eh bien, ils ont pu monter un système, une batterie, une poche, dans lequel, dans ce cas, ils ont mis trois capteurs hybrides, c'est-à-dire constitués de ce réseau de Bragg et de cette cavité Fabry-Perot, avec, là où, une fois de plus en surface, pour contrôle des simples réseaux de Bragg pour maintenir la température. Et grâce à cela, eh bien, ils ont pu obtenir ces courbes dans lesquelles on peut, dans ce cas, mesurer, lors de la charge et la décharge, eh bien, la variation de température, c'est ce qui est mentionné ici à partir de la variation de lambda, et également, en bleu, la variation de contrainte, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, ce qui a pu être mesuré avec ces capteurs hybrides, bon, qui ne sont pas tellement utilisés, c'est quand même relativement complexe à effectuer. Et pour la petite histoire, ces cavités Fabry-Perot eh bien, jouent un rôle essentiel tout simplement dans les systèmes de laser. C'est là où on va augmenter la puissance, ainsi de suite. D'où voilà. Et enfin, jusqu'à maintenant, je vous ai mentionné toutes les manips qui ont été directement effectuées sur des cellules poches. Et maintenant, je vais passer un des derniers résultats qui avait été obtenu dans la littérature, c'est que la possibilité de mettre ces capteurs également dans des cellules de 1050. Et ici, vous avez un capteur, une fibre de Bragg, qui a été tout simplement introduit ou injecté dans cette batterie à travers le mandrin que vous voyez ici. Et là, c'est tout simplement une image d'X-ray tomographie assistée par ordinateur de la cellule. Et vous voyez très bien ici le mandrin et la fibre optique. Et là, les chercheurs ont tout simplement fait des manips classiques, une fois de plus, mettre le capteur de Bragg et mesurer la variation de température en fonction du courant et en fonction, finalement, du courant et également du potentiel de la cellule. Donc voilà, si vous voulez, un peu résumer, je dirais, tout ce qui s'est fait, pas de façon non exhaustive, dans le domaine de la détection, en utilisant les réseaux de Bragg dans le domaine des batteries. Alors, si on regarde ces résultats, eh bien, il y a des remarques qui s'imposent. C'est-à-dire qu'effectivement, des capteurs ont déjà été intégrés, ont déjà été injectés dans ces batteries, et beaucoup de papiers relatent du suivi, d'une variation de potentiel en fonction de la température ou des contraintes, et cela peut apporter, je dirais, des informations intéressantes pour des systèmes BMS, mais c'est-à-dire qu'on ne regarde directement que les facteurs physiques, et même dans la plupart des papiers, il est très difficile de trouver quelle est la chimie en question. Et c'est pour ça, si vous voulez, que des recherches qui ont été effectuées dans notre groupe récemment ont essayé d'apporter une autre dimension à ces capteurs optiques en essayant de voir ce qu'il y a derrière ces propriétés physiques et connaître, comprendre la chimie qui peut se passer et quelles sont les informations que l'on puisse retirer au niveau de la chimie de ces différents capteurs optiques. Et c'est un peu ce que je vais vous présenter maintenant, du moins commencer, avec les capteurs ou les réseaux de Bragg, et ensuite on passera à d'autres types de capteurs. Alors pour ce faire, eh bien on va tout simplement utiliser les appareils classiques, c'est-à-dire on va regarder tout cela avec des cellules du 1050, avec des poches cell, on va utiliser bien sûr les potentiostats, des interrogateurs, et on va également utiliser ce petit appareil qui va permettre tout simplement de souder des fibres et de faire les connexions. Et dans cette étude, pour démonstration, on va voir ce qu'on peut faire au niveau des cellules du 1050. Ce sont des cellules de sodium-ion dans ce cas, qui sont spiralées, dans lesquelles, vous voyez, on va utiliser le mandrin, et on va utiliser également l'astuce de mettre plusieurs réseaux de Bragg autour de cet accumulateur pour avoir des informations sur les propriétés thermodynamiques. Et bien sûr, tous ces résultats seront par la suite extrapolés, démontrés, dans le cas des cellules poches. Alors la première question qu'on pose lorsqu'on fait de telles mesures, c'est de savoir finalement, on va aller modifier la batterie, c'est-à-dire on va aller mettre une fibre optique, on va être obligé de ressouder, de mettre l'époxy, ainsi de suite, et la question est de savoir, est-ce qu'on affecte réellement les propriétés de cette batterie? Eh bien, si on regarde ici, vous avez une expérience classique de positionnement de réseau de Bragg dans un accumulateur, Et là, on trace la capacité en fonction du nombre de cycles. Et vous voyez qu'on a des cellules, deux cellules, avec une cellule tout simplement intacte, et on s'aperçoit qu'après 100 cycles, eh bien, le fait de mettre un capteur à l'intérieur est totalement transparent. D'où, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, l'ingestion de fibres enrobées eh bien, laisse ou peut se faire sans affecter la chimie de cette cellule. Alors à partir de cela, eh bien, on peut voir, comme je vous l'ai mentionné auparavant, hein, c'est-à-dire on peut déterminer quel va être le gradient de température entre le cœur de la cellule et ici la surface. Voilà un réseau de bras qui est mis en surface et l'autre à l'intérieur. Et ici, en fonction du régime de cyclage, vous voyez que la différence eh bien, devient relativement considérable, c'est beaucoup dire, vous avez 7 à 8 degrés lorsque vous êtes à des régimes de 5 à 10 C. D'où il y a un gradient dans cette direction. Maintenant, dans le plan de base, maintenant, si je veux tout simplement avoir le gradient le long de l'axe Z, eh bien, il suffit tout simplement que je rajoute d'autres capteurs, comme mentionné ici. Et ici, vous avez tout simplement les signatures de variation thermique en fonction du temps de ces trois différents capteurs. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, j'ai une certaine différence. Et là aussi, vous apercevez qu'entre le haut et le bas eh bien, de la batterie, vous avez à des régimes de 5 à 10 C des gradients de température de l'ordre de 3 à 4 ou 5 degrés, et bien sûr avec les points les plus chauds étant situés vers les connexions. Donc voilà, si vous voulez, les informations que l'on peut en tirer. Ensuite, on peut regarder plus en détail les courbes électrochimiques. Et ces courbes électrochimiques, eh bien, elles sont indiquées ici. Dans ce cas, vous avez la variation du potentiel en fonction du temps, vous chargez votre accumulateur et vous allez collecter maintenant la variation de température. Vous avez la longueur d'onde, vous apercevez qu'il y a des pics qui apparaissent long de cette courbe. Ce qui est intéressant, c'est que ces pics apparaissent lors de la première charge. Et lorsque vous regardez la décharge suivante, eh bien, ces pics disparaissent. Et ils disparaissent également dans le deuxième cycle. Et ici, vous mettez tout simplement en évidence un problème bien important qui est bien connu dans les accumulateurs, c'est-à-dire la formation d'une interface solide électrolyte, et j'y reviendrai par la suite. Donc, par conséquent, on arrive, grâce à ces mesures, à rentrer ou avoir un aperçu de ce qui se passe, c'est-à-dire détecter la SEI, mais il y a encore bien sûr beaucoup d'informations. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est que si je veux comprendre plus de la chimie à l'intérieur de ces pics, ce que ça représente, eh bien, il faut que je transforme cette température en chaleur associée. Et pour faire cela, eh bien, on va le faire tout simplement en faisant des mesures comme indiqué ici, c'est-à-dire en tirant parti de trois fibres optiques, l'une placée à l'intérieur de la batterie, l'autre en surface et l'autre dans l'enceinte utilisée pour effectuer ces mesures à température constante. Et dans ce cas, on va tout simplement utiliser un circuit thermique équivalent à une dimension pour en déterminer les flux de chaleur. Et ce circuit thermique, eh bien, dans ce circuit thermique, vous allez voir tout simplement des capacitances qui ne sont rien d'autre que tout simplement, dans ce cas, les capacités thermiques de votre système. Et vous avez dans ce cas les résistances qui ne sont rien d'autre que les coefficients inverses de transfert thermique à l'intérieur du système. Ça veut dire qu'on peut tout simplement écrire la relation suivante. Le taux de chaleur généré par la cellule va avoir deux termes. Un terme Q qui va être le flux de chaleur transféré, avec ce terme MCPDPDT qui va être la chaleur accumulée par la cellule. Et à partir de ça, eh bien, on peut transformer toutes nos courbes de longueur d'onde en température et ensuite en chaleur. Et la question, c'est est-ce que cela est viable? Ou est-ce que cela a un sens? Et est-ce que cette transformation est correcte? Eh bien, pour ce faire, voilà les résultats que l'on peut obtenir. Variation de la tension de la cellule en pointillé, avec la capacité spécifique en bas, et le flux de chaleur à milliwatts. Et ça, c'est fait tout simplement sur des cellules du 250. Et pour s'assurer que ces valeurs soient correctes, eh bien, dans ce cas, on peut utiliser la même chimie, mais dans des configurations différentes, c'est-à-dire des piles au bouton. Et ça, c'est ce qui a été fait par des mesures de calorimétrie isotherme. Et vous voyez ici que ces deux courbes, eh bien, plus ou moins, se ressemblent et sont très proches. Mais l'avantage, c'est que dans ce cas de ces mesures de calorimétrie, comme indiqué ici, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, elles ne peuvent se faire qu'à de faibles régimes de cyclage, parce que vous voulez toujours rester à l'équilibre, vous voulez tout simplement qu'il n'y ait pas de chaleur transférée gigantesque. On peut utiliser une... Et là aussi, les mesures sont toujours faites à la même température, 40 degrés C, et on est limité en taille, c'est-à-dire qu'on peut faire des mesures de calorimétrie isothermique, comme indiqué ici, sur des cellules de poules boutons, mais pas sur du 250. D'où, voilà, finalement, comment on peut, par ces mesures optiques, simplifier ce type de calorimètre par, tout simplement, l'utilisation de trois fibres optiques, ou trois réseaux de Braque, placées judicieusement à l'intérieur, à la surface de notre accumulateur. D'où, finalement, on peut se demander quels sont les avantages de cette microcalorimétrie optique. Eh bien, l'avantage est ici est indiqué, c'est que, eh bien, avec la calorimétrie isotherme, eh bien, on n'arrive pas, ou on ne peut pas déterminer la chaleur spécifique, MCP dT, alors que cette chaleur, on peut la déterminer grâce à ce calorimètre optique. Et on peut la déterminer, et on s'aperçoit effectivement que à des vitesses ou des régimes de C sur 10, eh bien, les deux sont relativement équivalents. Par contre, si maintenant je vais avec des régimes beaucoup plus importants, de 1C ou de C, vous voyez la contribution, dans ce cas en bleu, de ce terme MCPDT. Et ça, si vous voulez, je ne vais pas aller dans les détails, mais ça a une importance capitale pour dessiner ou pour construire des systèmes de refroidissement pour les véhicules électriques, sachant qu'il y a cette capacité thermique à considérer et finalement à tamponner, si je peux dire, à de haut régime. Alors ensuite, on peut, et ce n'est pas le but de cette présentation, de continuer à voir quels sont les différents termes thermodynamiques que l'on peut retirer de ces informations. On peut également avoir le potentiel d'enthalpie d'un système qui, généralement, reste constant s'il y a des systèmes parfaitement reversibles. Et on peut avoir également, ce qui est relativement important, c'est la chaleur ou l'entropie d'un tel système. Dans ce système, j'ai oublié de le mentionner, vous avez ces courbes indiquées ici. Vous avez ici un saut de potentiel, et ce saut de potentiel est associé à une transition de phase. Dans ce cas, c'est une transition de phase entre un sodium 2 et un sodium 3. Eh bien, on peut également utiliser, en fonction du cyclage, ce changement de phase pour, comme indiqué ici, eh bien, suivre l'état de santé de cet accumulateur, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'au fur et à mesure que l'accumulateur va cycler, eh bien, on s'aperçoit que l'entropie va diminuer, et ça, on peut le relier à l'état de santé de l'accumulateur. D'où, là aussi, l'entropie est une bonne métrique pour mesurer ce genre de système. Donc voilà ce qu'on peut, je dirais, retirer de ces systèmes, soit de la partie, je dirais, thermodynamique, et également de la partie chimique. Alors, de la partie chimique, eh bien, je terminerai sur ce transparent. Eh bien, dans ce cas, on va pouvoir refaire la même mesure. Et vous avez ici le début de transparent que je vous ai mentionné auparavant, dans lequel vous avez le potentiel avec ici le changement de transition associé à la phase NBPF. Et vous voyez ici le fameux pic que je vous ai mentionné qui est associé à la SEI. Et là aussi, on voit le pic associé à la transition. Et on peut également, dans ce cas, rappelez-vous, si je veux avoir une sensibilité en pression, je peux utiliser ces fibres optiques microstructurées. Et voilà maintenant que lors du premier cycle, vous apercevez que, dans ce cas, eh bien, lorsque j'ai cette augmentation de température, j'ai également une augmentation de pression. Eh bien, ça veut tout simplement dire qu'on a tout simplement accès à, une fois de plus, cette fameuse interface solide-électrolyte. Et cette interface solide-électrolyte, eh bien, on va pouvoir tout simplement la caractériser et voir à quoi elle convient. D'où, ça c'est très utile car c'est des étapes de formation et lorsqu'on va, et je vous le montrerai par la suite, eh bien, tenter d'utiliser des électrolytes différents, on va pouvoir rapidement, par de simples mesures, c'est-à-dire dans ce cas vous mettez tout simplement, regardez deux fibres optiques à l'intérieur de votre accumulateur, l'une qui va vous détecter la pression et l'autre qui va vous détecter la température et je dirais cela est utile seulement pour les étapes de formation. Et je vais pouvoir connaître l'énergie associée à la formation de cette SEI avec également la pression qui va être générée lors de cette formation. Et à partir de ça, eh bien, on pourra tout simplement en déduire des réactions et voir quelles sont les réactions en cascade qui vont contrôler cette formation de SEI. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui et on continuera la prochaine fois sur l'aspect chimie de ces différentes informations et qu'est-ce qu'on peut, jusqu'à quel point on peut comprendre cette chimie et voir que les réseaux de Bragg, eh bien, ce n'est pas finalement l'outil spécial. On va voir des outils plus importants ou des capteurs, type de capteurs évanescents et ainsi de suite pour nous permettre d'avoir accès plus rapidement à cette chimie. Voilà, je vais terminer. Merci.